On va commencer ce matin avec un petit quiz, juste pour vérifier que la chaleur ne vous a pas endormi. Écoutez attentivement, car je vais vous lire une liste. D'accord? Ça va? Les oreilles sont bien? Je suis l'Éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole devant laquelle tu te prosterneras pour rendre un culte, car je ne tolère aucun rival. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas quoi que ce soit de chez ton prochain. Ok. Alors, la liste, c'est quoi que je viens de vous lire là? Les 10 commandements. Sauf que je vous en ai lu 9. Alors, ma question c'est, qu'est-ce qui manquait dans la liste? J'ai pas entendu, hein? Ce qui manquait dans la liste, c'est tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ok? C'est ça qui manquait dans la liste. En fait, Timothée, tu peux le projeter, s'il te plaît, dans la version Louis II. Donc, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors, ceux qui me connaissent bien vont savoir que j'aime bien les versions différentes. J'ai l'impression qu'il y a du Larsen. J'aime bien les versions différentes parce qu'il y a une richesse. L'hébreu, c'est une langue tellement riche que c'est très difficile de prendre tout le sens de ce qui est dit et de garder un texte qui reste lisible. Parce que c'est tellement riche, on aura des phrases, 15 phrases pour chaque phrase. Donc c'est très intéressant. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, je vous encourage à comparer les versions. Là, Tim, est-ce que tu peux, s'il te plaît, projeter la version en parole de vie? J'ai pris juste deux exceptions. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Alors, j'aime, c'est droit, ça tape. Quand tu vois dans les versions qui sont un peu plus français courant. Je pense qu'on est tous d'accord. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu donne les commandements, nous ferions bien d'écouter. Oui, c'est le cas. Et en Exode 20, Dieu y prononce ses 10, dans la Bible ça s'appelle les 10 paroles. C'est jamais marqué, c'est les commandements, c'est les 10 paroles. C'est les 10 choses que Dieu a à nous dire en tant que fondement de l'alliance qui va instaurer avec son peuple. Et il prononce ces 10 paroles à un peuple imparfait, comme on voit très souvent dans la Bible, très récemment sorti de l'esclavage. Ils doivent apprendre à devenir le peuple de Dieu. Et le peuple que Dieu a choisi pour bénir les nations. Et c'est pour ça que Dieu, il est en train de donner un cadre de vie, un cadre d'alliance, pour qu'ils sachent comment se comporter. Quand vous avez vécu 400 ans sous le règne de quelqu'un qui ne respecte pas du tout Dieu, ça veut dire que vous avez besoin d'apprendre. Et donc, nous, on se trouve aujourd'hui un peu dans cette situation-là. On a vécu autrement et Dieu nous appelle à devenir un peuple qui est choisi par lui pour bénir les nations. Ça, c'est notre rôle. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, on connaît tellement bien cette liste-là, on a tendance à... Bon, on fait vite la liste et puis c'est bon. Et peut-être on ne réfléchit pas trop à ce que ça veut dire vraiment. Quand moi j'étais tout petit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, on connaissait bien les 10 commandements. Ça, c'est vraiment un cadre de vie. Et donc, dans ma tête, j'avais à peu près pas d'autre Dieu, pas de meurtre, pas d'adultère, pas de mensonge, honore les parents et attention à ne pas dire au mon Dieu. Ça, c'est pour moi ma compréhension de ce troisième commandement. C'était ça. C'est attention à ce que tu dis. Et dans ma tête, c'était un peu déséquilibré en fait. Parce que je dis, bon, c'est les 10 choses qui sont les plus importantes pour Dieu. Mais si on les met un peu dans le balance, la balance là, on a meurtre et il ne faut pas dire au mon Dieu. Ou adultère et il ne faut pas dire au mon Dieu. Ou il ne faut pas voler. Il ne faut surtout pas louer un autre Dieu et il ne faut pas dire au mon Dieu. Et j'avais l'impression que je ratais quelque chose. Parce que je me disais, c'est vrai que le nom de Dieu, c'est quelque chose d'important. Mais où est l'équilibre? Où est l'importance, vraiment, dans ce commandement, dans cette parole? Alors, pour être clair, notre façon de parler de Dieu, c'est important. Je ne suis pas en train de dire que ça ne veut pas dire ça. Parce que, bien sûr, oui. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va creuser un peu. Parce que ce n'est pas toute l'histoire dans ce commandement-là. Il y a quelque chose de très important qu'on a besoin de saisir dans ce commandement. Donc, voyons ça ensemble. Kim, est-ce que tu peux reprojeter la version Louis II, s'il te plaît, de ce verset qu'on a déjà vu? Donc, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Okay? Il y a trois points clés dans cette parole. Il y a le verbe prendre, il y a le nom de l'Éternel, et puis il y a cette expression en vain. Okay? Et je veux commencer en parlant du point central, et ça c'est le nom de l'Éternel, ton Dieu. On parle de quoi lorsqu'on parle du nom de l'Éternel, ton Dieu? Parce que Dieu a un nom. Dieu a un nom. Et nous pouvons découvrir ce nom en Exode, le livre d'Exode, au moment où Moïse entend pour la première fois, la deuxième fois, où Dieu se présente. La première fois que Dieu se présente à Moïse, il est dans un buisson ardent. Et il dit, en fait, je m'appelle Je suis. Et c'est de là qu'on a ce nom quand on a Dieu, l'Éternel. Parce que si hier je suis, et aujourd'hui je suis, et demain je suis, ça veut dire que je suis éternel. Donc quand on dit l'Éternel, en fait, c'est un peu la traduction de ce Je suis. Et ça, c'est la première fois. La deuxième fois que Dieu se présente à Moïse, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Et on va voir ça ensemble. Donc, dans Exode 33, verset 18, Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Ok? Alors, Dieu va se présenter officiellement. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc, Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel. Alors, on a déjà dit l'Éternel, c'est Je suis. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que il dit pas Je suis, comme il a dit la dernière fois. Il dit Yahweh. Et en fait, Yahweh, si vous êtes linguiste, Je suis, c'est la première personne. Yahweh, c'est la troisième personne. C'est Il est. Il est. D'accord? Donc, Je suis, c'est ce que je m'appelle moi-même, mais vous, vous allez m'appeler Il est. Parce que vous me parlez. Il dit, donc mon nom c'est Il est, il existe, celui qui existe. Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la millième génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième, voire même la quatrième génération. Et tout ça, c'est le nom de Dieu. Tout ça, c'est le nom de Dieu. Et on va parler un peu des parties différentes. Parce qu'il y a les parties qu'on aime bien et il y a les parties où on se dit, ça c'est un peu dur. Mais nous pouvons comprendre que le nom de Dieu, c'est beaucoup plus que le mot simple qu'on utilise pour désigner quelqu'un. Okay? Le nom de Dieu, ça inclut l'idée de tout ce qui désigne l'essence de la personne. Et ça, c'est ton nom. C'est qui tu es. Et ce qui est très intéressant, comme je vous ai dit, pour les traductions, parfois on voit autre chose. On va juste regarder le même passage, mais cette fois-ci dans la version Sommer. Pardon, ce n'est pas le même passage, c'est Exode 33, 18, dans la version Sommer. Donc, c'est la même conversation entre Moïse et Dieu. Et Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et Dieu lui répondit, « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. » Donc, là où on voit dans une version le nom de l'Éternel, dans cette traduction-là, les traducteurs, ils ont dit, quel élément est-ce qu'on va prendre de ce mot « nom » ? Ils ont pris l'idée de les qualités, l'essence de Dieu, son caractère. Parce que c'est ce qu'on voit dans la présentation. Et donc, lorsque Dieu dit « voici mon nom », il est en train de dire « voici l'essence de qui je suis ». Et partout dans la Bible, on voit des exemples ce qui est présenté, on a du mal à distinguer entre le nom de Dieu et la présence de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples, on n'a pas le temps d'y entrer. Si ça vous intéresse, vous pouvez me voir après. Mais faites-moi confiance, il y a beaucoup d'exemples. Alors, retenez cette pensée sur le nom de Dieu et revenons maintenant au premier mot-clé de notre troisième commandement. Parce que ce commandement, c'est « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Donc maintenant, on sait de quoi on parle avec le nom de l'Éternel. Mais prendre, ça veut dire quoi? Parce que, comme on a souvent compris, on parle de ce qu'on dit. Si on doit faire attention à ce qu'on dit. Mais en fait, ce verbe prendre, en hébreu, c'est le mot nasar. Nasar. Et ça signifie prendre, porter, soulever. Et c'est un verbe très concret. Il n'y a rien de mystique dans ce mot-là. C'est le même verbe que tu utilises pour prendre un enfant ou pour prendre un carton. Et on le porte. Donc, c'est le même mot qui est utilisé. Et c'est aussi le même mot qu'on utilise, par exemple, lorsqu'on dit que « Oh, je porte un fardeau ». Okay? Donc, c'est porter dans ce sens-là. Ça peut être très concret ou ça peut être un peu plus figuratif, comme on peut faire aussi en français. Alors, dans cette troisième parole, l'Éternel est en train de donner une instruction sur comment son peuple doit porter son nom et ce qui fait son caractère, son essence. Et bien sûr, ça touche à ce qu'on dit, mais c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et donc, cette expression « porter le nom », je vais vous donner une illustration de ce que ça veut dire. Cette expression « porter le nom de quelqu'un » apparaît ailleurs dans la Bible, trois fois, je pense. Et on va regarder un autre exemple pour nous aider à comprendre peut-être ce que Dieu voulait dire dans ce commandement. Et pour savoir ce que Dieu attend de nous. Alors, dans l'organisation de l'adoration de Dieu, ce qu'il a mis en place après la libération de l'esclavage en Égypte, il y avait tout un système, toute une organisation, et il y avait le grand prêtre. Okay? Et c'est celui qui c'est l'unique personne qui a le droit d'aller dans le lieu très saint pour être face à face quelque part avec la présence de Dieu. Et il doit mettre une tenue spéciale parce qu'on n'y va pas en jean, on met ce qu'il faut mettre parce que chaque élément avait une signification symbolique. Et le détail de tout cela, avec les explications, se trouve en Exode 28. On ne va pas le lire, mais c'est Exode 28, si vous voulez voir. Mais on veut vous montrer une image. Comme ça, vous allez voir, parce que c'est plus clair comme ça. Alors, Tim, si tu peux mettre l'image, s'il te plaît. OK. Ça, c'est ce qui est décrit en Exode 20. Et je veux juste attirer votre attention sur deux éléments de cette tenue. Vous allez voir qu'il y a deux sortes d'épaulettes. Et puis, devant, ici, il y a une sorte de plaque. Ça s'appelle un pectoral. C'est quelque chose qu'on portait là. Et sur ces deux éléments-là sont gravés les noms des 12 tribus. Okay. Donc, les 12 tribus d'Israël, ils étaient gravés. Donc, pour chaque pierre, là, il y avait un nom de tribu. Et sur les épaulettes, il y avait 6 d'un côté et 6 d'un autre côté. Et ce n'est pas juste pour faire joli, pour faire un peu bling, parce que c'est les pierres précieuses. C'est pas que le grand prêtre doit, voilà, ça doit être un peu flashy. C'est pas du tout ça. L'objectif de la tenue, c'était de porter l'ensemble du peuple dans la présence de Dieu et de les représenter dans la présence de Dieu. Donc, c'est comme si, quand le grand prêtre entre, il porte avec lui tout le monde. Donc, c'est une personne physique qui entre, mais en entrant, il porte avec lui l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y avait des noms là, c'est pour que tout le monde puisse aller dans la présence de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a de la place, c'est une petite tente, donc il n'y a pas de place pour je ne sais pas combien de milliers de personnes, et donc ça se faisait comme ça. Et dans Exode 28, 29, si tu peux le projeter, « Ainsi, par ce pectoral du verdict, c'est ça que ça s'appelait, ce carré-là, lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël pour en évoquer constamment le souvenir devant l'Éternel. » Donc, il portait les noms des tribus dans la présence de Dieu parce qu'il était censé représenter le peuple. Donc, le travail du prêtre était un travail de représentation. C'est Dieu devant le peuple et le peuple devant Dieu. Et on parle ici du grand prêtre. Mais je veux souligner quelque chose. Souvent, lorsqu'on pense au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, on pense, oui, il y avait le peuple et puis il y avait les prêtres. Quelque chose un peu, voilà, à part. Et c'est vrai qu'en termes de service, ça existait. Mais lisons ce que Dieu écrit juste avant de prononcer les 10 paroles, les 10 commandements. Donc, c'est en Exode 19, 5 à 6. Maintenant, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous, donc il parle au peuple, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Vous serez pour moi, donc pas uniquement les prêtres, mais vous tous, vous serez un royaume de prêtres, une nation sainte. Alors, si Israël accepte d'être formé pour devenir un peuple qui est le reflet du caractère de l'Éternel, Dieu leur dit, « Vous porterez mon nom, comme le prêtre porte le nom d'Israël devant moi, vous allez porterez mon nom devant tout le monde. » Ça, c'est votre job. Vous êtes le peuple choisi pour cette raison. Parce que je vous ai choisi pour bénir les nations. Si vous allez en arrière, vous voyez la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et c'est pour ça qu'Israël a été choisi. Ce n'était pas juste pour passer un bon petit moment entre peuples avec Dieu. C'est non, je vous choisis parce que vous avez un job à faire. Et ce job, c'est un travail de représentation. Et quand tout le monde vous voit, ce qu'il devrait voir, c'est moi. Alors, on sait que ça ne s'est pas forcément très bien passé, mais ça, c'était quand Dieu a créé son alliance avec Israël, quand il a dit, voici les termes de cette alliance, de ce contrat, c'est voilà ce que j'ai en tête. C'est que vous soyez une représentation et vous allez porter mon nom. Vous allez porter mon nom. Alors, ça devrait nous rappeler quelque chose qu'on lit dans le Nouveau Testament. Parce que ce passage-là, cette expression-là, c'est répété. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à Israël que ce passage est cité. C'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre, qui est en train d'écrire une lettre à tous ceux qui croient en Jésus. Donc, on est en 1 Pierre 2, verset 9. Et donc, c'est Pierre qui écrit, il dit, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte. C'est le même vocabulaire que ce vocabulaire d'alliance que Dieu a instauré avec le peuple d'Israël. Et maintenant, il est en train de parler à tous, à nous, à toi, à nous tous. OK? Vous êtes un peuple élu, une communauté de rois-prêtres. Qu'est-ce qu'un prêtre fait? Un prêtre est le représentant de Dieu devant tout le monde. Okay? Un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous n'étiez pas Israël, vous étiez des païens, des je ne sais pas qui, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Et ça, c'est important parce que quel est le nom de Dieu? Plein de compassion. Donc maintenant qu'on est le peuple de Dieu, on porte tout ce qu'on trouve dans le nom de Dieu. OK? Et dans l'Ancien Testament, Dieu, il a choisi le temple comme le lieu, il dit, où son nom allait demeurer. Ça, c'est en Deutéronome 12, une référence. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Paul dit? En Corinthiens 6, verset 19, il dit, « Bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit. » Okay? Nouveau temple. Dieu déménage. Il est plus, son nom n'est plus dans un bâtiment ou sur un bâtiment. Maintenant, son nom demeure en nous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Parce que Dieu a dit, dans le langage de l'alliance, le contrat, l'alliance, il dit, vous êtes ma possession. Donc encore une fois, on voit ce langage d'alliance. Okay, qui, tout ce qui tourne autour, c'est 10 commandements. Tout ce que Dieu dit, ça c'est le fondement de ce qu'on fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, qui ne peut pas être contenu, il choisit d'attacher son nom à soit un endroit comme le temple, soit un peuple comme Israël, comme nous aujourd'hui. des communautés. Et si aujourd'hui, tu es entré dans l'alliance avec l'Éternel par ta foi en Jésus, en sa mort, en sa résurrection, ça veut dire que aujourd'hui, tu portes le nom de Dieu. Et Dieu, il porte son attention sur comment il est représenté par son peuple. Parce que, si on revient à ce troisième commandement, c'est « ne portez pas mon nom en vain ». Alors, en vain, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un verset très connu dans les psaumes qui dit « si Dieu ne bâtit pas la maison, les ouvriers bâtissent en vain ». Ça veut dire que leur travail, c'est... ça ne sert à rien. C'est inutile. Okay? Et c'est la même expression. D'accord? Et donc, cette expression, c'est le mot « shav » en hébreu. C'est utilisé beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui sont « shav ». Okay? Ça veut dire que inutile, comme ça n'a pas de valeur, comme ça n'accomplit pas son objectif. Ça veut dire c'est abusif, c'est nul, quoi. C'est nul. Et c'est cette idée-là, Charles. C'est ne portez pas mon nom, Charles. Ne portez pas mon nom inutilement. Ne portez pas mon nom comme si ça n'a pas de valeur. Ne portez pas mon nom sans que la chose vaille la peine, sans accomplir le résultat que j'ai prévu. Et c'est quoi l'objectif que Dieu avait en tête? C'est qu'on puisse être une lumière pour les nations. C'est pour qu'on puisse rayonner. Et donc, la raison que Dieu attache son nom à nous aujourd'hui, c'est pour que nous soyons son image. Ici sur terre, on est la lumière pour les nations. On est la lumière pour les nations. Et tout ce que nous voyons dans le nom de Dieu, nous sommes censés vivre tout ça pour la gloire de Dieu. On va juste reprendre les éléments de son nom, de son caractère, de son essence. Donc, Tim, si tu peux remettre, s'il te plaît, Exode 34, 6 et 7. OK. Un Dieu plein de compassion et de grâce. On est d'accord que c'est bien, c'est une bonne chose à porter? Oui? Oh, vous n'avez pas l'air très enthousiaste, là. Quand je vois compassion, grâce, je suis contente, parce que j'en ai besoin. Riche en amour et en fidélité. On en a besoin? Il conserve son amour jusqu'à la millième génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché. Alors, sans entrer dans le détail, c'est trois catégories de choses, mais ça couvre tout ce qui n'est pas bon. OK? Et on aime cette première partie. On dit, oui, grâce, amour, compassion, bonté. Oui, je prends. Et puis on arrive à la deuxième partie. On est un peu moins sûr. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième, voire même la quatrième génération. On lit ce genre de choses et dit, mais Dieu, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Mais il faut comprendre ce que Dieu est en train de dire ici. Parce qu'ailleurs, dans la Bible, il dit que chacun est puni pour ses propres péchés. Donc, ça veut dire que ce qu'on a ici, ça veut dire autre chose. Qu'il y a quelque chose à comprendre. Si nous sommes la démonstration vivante de la bonté de Dieu, nous sommes aussi la démonstration du fait que si nous ne réglons pas les fautes, que Dieu est prêt à pardonner parce qu'il vient de le dire. Il vient de dire, je pardonne tout. Donc, ce n'est pas que Dieu est en train de dire, oh, ça c'est trop difficile. Dieu pardonne tout. Mais si nous ne réglons pas les fautes, nous allons laisser se produire les conséquences pour nos fautes qui seront vécues un peu comme un jugement dans les générations à venir si ce n'est pas réglé devant Dieu. Et on voit ce qui se passe dans le monde et on voit ce qui se passe. Et quelque part, chaque génération a sa responsabilité, chacun de nous, on a une responsabilité de traiter tout ce qui est contre ce que Dieu veut pour son peuple dans nos vies, afin que les conséquences ne continuent pas pour nos enfants.
Amen.
Ou pour les enfants de nos enfants. Et le problème, c'est que parfois, si on passe par plusieurs enfants, plusieurs générations, pardon, on arrive à un moment où c'est tellement désespéré souvent qu'on dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Mais Dieu dit, dès que il y a une confession, dès que il y a une envie de régler ça, je suis là. Je pardonne les fautes, les péchés, les crimes. Ça, ce n'est pas un souci. Mais lorsqu'on porte le nom de Dieu, nous portons aussi cet avertissement. Il faut qu'on soit rapide à régler les choses. Il ne faut pas laisser traîner les choses. Parce qu'il y aura des conséquences. Et Dieu, c'est un avertissement dans le contrat de l'Alliance. C'est que tu ne peux pas faire n'importe comment si tu portes mon nom. Et on voit malheureusement ce qui se passe dans l'Ancien Testament parce que la nation d'Israël, on arrive à passer la deuxième génération, passer la troisième génération, passer la quatrième génération et ils ont continué à refuser de corriger les choses là où Dieu a mis le doigt. Et qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par être envoyé du pays, le pays qui avait été donné par contrat avec eux. Mais Dieu, il était très clair dès le début. C'est, vous avez une responsabilité. Un contrat, ça marche dans les deux sens. Et votre responsabilité, je vous donne des bases, je vous donne des fondements, on parle des fondamentaux, c'est pour nous aider à construire les bases pour que justement on puisse devenir le peuple que Dieu a choisi. Pour être, pas pour que nous on soit super bénis, mais pour qu'on puisse être une lumière pour les nations. Alors je vais terminer avec un encouragement, parce que bon, c'est... voilà, c'est le jugement jusqu'au à la quatrième génération. Non, on règle les choses. Mais je veux terminer avec un encouragement, parce que Dieu, il est soucieux de son nom. Ça veut dire qu'il est soucieux de sa réputation. Ça compte pour lui. Et il ne veut pas que son nom soit traité n'importe comment. Et la Bible même dit qu'il est jaloux de son nom. Jaloux pour son nom. Il n'accepte pas que l'intégrité de son nom et de sa réputation soit compromise. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'il est rempli de compassion, d'amour, de fidélité, de bonté. Il veut que tout le monde soit au courant de cela. Quand tout le monde voit Dieu en nous, c'est ça. C'est ça que Dieu veut qu'il voit. La compassion, l'amour, la fidélité, la bonté. Et nous avons passé pas mal de temps à parler de notre engagement dans ce contrat. Mais voici quelques exemples de l'engagement de Dieu. Qui est soucieux de son nom, qui est jaloux pour son nom. Et avant, on va commencer avec Ézéchiel 20, verset 44. J'aime énormément cette traduction-là. C'est magnifique. « Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous à cause de mon nom et absolument pas en fonction de votre mauvaise conduite. » C'est mon nom, c'est compassion, c'est bonté, et à cause de cela, je suis lent à la colère. Et donc, là, c'est pour ça que vous voyez la miséricorde. Même lorsqu'on ne le mérite pas. Ça, c'est Dieu qui est jaloux pour son nom. Il veut que lorsqu'on pense à son nom, on dit, oui, Dieu, je suis rempli de reconnaissance parce que tu m'as montré la compassion quand je ne le méritais pas. Il est lent à la colère, rempli de bonté, de compassion, malgré notre comportement. Et ça, c'est son nom. Il est comme ça. Dieu est comme ça. Deuxième exemple, psaume 25, verset 11. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. À cause de ton nom. Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. C'est parce que toi, tu sais que tu es rempli de compassion, etc. Tu es le Dieu qui pardonne le crime, la faute, le péché. À cause de ton nom, tu vas me pardonner. Il faut savoir que nous ne pouvons pas trouver la solution à nos péchés nous-mêmes. Il y a forte tendance à essayer parfois, parce qu'on ne veut pas s'humilier devant Dieu, pour dire que j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas chercher de l'aide dans l'église, je vais gérer ça moi-même. Okay? Mais Dieu dit, mais venez dans ma communauté, on fonctionne tous sur les mêmes bases là. On fonctionne tous avec les mêmes règles, et on sait tous que c'est à cause de son nom que nos péchés sont pardonnés. Ça, c'est son nom. Dieu, il est comme ça. Troisième exemple, psaume 23, verset 3. C'est à cause de ton nom, Éternel. Oh, pardon, ça c'est... Voilà. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Lorsque nous devons discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, dans les choix que nous avons devant nous, Dieu, il est fidèle à nous montrer le chemin. Il dit, je vous abandonne pas dans cette vie de choix. Je suis le Dieu fidèle. C'est mon nom. Et donc, je vais te montrer le droit chemin. Le sentier de la justice. Comment il faut être droit devant Dieu. Et il dit, mais je le fais à cause de mon nom. Ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est à cause de qui je suis. Et moi, je ne change pas. Et le dernier verset que j'aimerais vous montrer, je vais vous montrer dans deux versions. Et on va regarder d'abord, c'est psaume 31, verset 4. Et d'abord, on va regarder dans la seconde 21. Oui. Tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. À cause de ton nom. C'est dans le contrat. Et puis, si tu peux mettre l'autre version, s'il te plaît. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es. Toi, tu me guideras et tu me conduiras dans notre alliance avec Dieu, rendue possible par la mort et par la résurrection de Jésus. Nous ne sommes pas laissés sans protection, sans direction. Parce que c'est son nom. Dieu, il est comme ça. Il est comme ça. Alors, ne portons pas le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Portons le nom de l'Éternel, notre Dieu, comme ceux qui sont au bénéfice de sa compassion et de sa bonté et de son amour et de sa fidélité et de son pardon et de sa correction et laissons briller la réputation de Dieu à travers nos vies.
Amen.
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 Alors, lorsque je préparais en fait, Sophie, hier, j'étais en train d'un peu de revoir un peu ce que j'avais aimé. Et ces trois exemples, les trois premiers exemples que je vous ai montrés là, j'aimerais juste donner l'occasion, là où on est, de réfléchir à ces trois exemples. Paul, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Et en fait, ce que j'aimerais qu'on fasse, on peut très bien rester assis, mais je vous encourage à fermer les yeux. J'aimerais que vous vous voyiez dans votre imagination là, avec ce pectoral, cette plaque que le prêtre portait autour du cou là. Et écris, c'est toi, et écris sur cette plaque, c'est marqué l'Éternel. Et partout où tu vas, que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos études, que ce soit avec les voisins, que ce soit avec les clients, vous portez l'Éternel affiché en gras. Pour l'instant, c'est une sorte de plaque qu'on porte. On porte ça. En Apocalypse, lorsque Jésus parle, en début d'Apocalypse, je ne me souviens plus si c'est le chapitre 2 ou 3, mais il parle à une église et il dit, vous n'avez pas renier mon nom. Et parce que vous n'avez pas renié mon nom, à ce moment où je reviens, ce n'est plus que vous allez porter mon nom, mais je vais gravir mon nom sur toi. C'est permanent. Il n'y a personne qui peut l'enlever. Mais aujourd'hui, on fait un choix par rapport à comment on va porter le nom de l'Éternel. Est-ce que lorsque les gens nous regardent, est-ce qu'ils vont voir la compassion? Est-ce qu'ils vont voir la fidélité? Est-ce qu'ils vont voir le fait que lorsqu'on fait quelque chose qu'on ne devrait pas, ou qu'on a des traits de caractère qui sont contre ce que Dieu veut, est-ce qu'ils vont voir qu'on met tout ça en soumission à Dieu, qu'on demande pardon? Parce qu'on est un peuple imparfait. Dieu sait qu'on est imparfait. Et sans doute le monde va savoir qu'on est imparfait aussi. Ça, ce n'est pas le problème. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et donc, je veux simplement vous rappeler trois de ces exemples de ce que Dieu fait pour nous. Et si quelque chose dans ces trois exemples vous touche, maintenant c'est le moment simplement de dire à Dieu, « Dieu, c'est moi. Et je veux régler ça. » Et ce n'est pas long à faire et ce n'est pas compliqué à faire. Mais il faut un choix. Parce que Dieu ne veut pas qu'on porte son nom en vain. Alors, premier exemple. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous à cause de mon nom et absolument pas en fonction de votre mauvaise conduite et vos agissements dépravés. Alors, peut-être, il y a les choses dans notre vie, il y a de la mauvaise conduite. Et peut-être, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à le relâcher. Mais vous savez que ce n'est pas bon. Et vous savez que c'est de la mauvaise conduite. Et Dieu vous dit ce matin, Dieu te dit ce matin, j'agirai avec toi à cause de mon nom. Je vais te pardonner. Je vais pardonner la faute, je vais pardonner le crime, je vais pardonner le péché. Mais il faut que tu sois volontaire pour ça. Parce que le pardon, ce n'est pas quelque chose que je vais vous forcer à faire, mais il faut que tu demandes. Mais je suis fidèle. Et je pardonne. Donc ça, on peut régler. Deuxième exemple. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Ce n'est pas exactement la même chose là. Ce qu'on voit là, c'est quelqu'un qui est sous le poids d'un péché, qui porte toujours la culpabilité. Parce que tu penses que ton péché est trop grand. Ce n'est pas que tu ne veux pas demander pardon, mais tu as peur. Qu'en fait, ce que tu as fait, c'est trop. Mais Dieu n'agit pas en fonction de toi et de ton péché. Il dit non, voici mon nom. Voici qui je suis. Et je veux que tu portes mon nom la tête bien haute. Donc maintenant, sois rassuré. Ce péché pour lequel tu demandes pardon encore et encore et encore et encore, il faut que tu saches que c'est pardonné. Parce que ça dépend de moi et pas de toi. Parce que c'est qui je suis. Et le troisième cas? C'est lorsqu'on est face au choix. À cause de ton nom, tu me conduiras. Amen. Tu me dirigeras. Amen. Tu me guideras. Amen. Tu es pour moi un rocher et une forteresse. Amen. Si tu as besoin de discernement aujourd'hui, Dieu dit, je vais te donner du discernement. Amen. À cause de mon nom, c'est dans mon intérêt que tu fais les bons choix. C'est dans mon intérêt parce que tu me représentes. Donc ne sois pas dans l'anxiété. Ne sois pas dans la peur pour ce que le futur, ce que l'avenir peut contenir pour toi. Parce que ça dépend de moi et de mon nom. Donc, je te donnerai le bon jugement. Je te donnerai le bon discernement. Et je te conduirai dans les sentiers de la justice. Sur le chemin qui est droit. Parce que c'est qui je suis. Alors, une dernière pensée, puis on va terminer. On prie souvent dans le nom de Jésus. C'est souvent quelque chose qu'on rajoute à la fin de nos prières pour donner un peu de poids. Ce n'est pas le mot Jésus qui est le mot magique. Jésus, il y avait probablement 5% de la population en Judée, à ce moment-là, qui s'appelait Jesus. Selon quelques historiens, même le criminel Barabbas, son prénom, c'était Jésus. Lorsque le peuple devait faire le choix pour la crucifixion entre Jésus et Barabbas, il y a certaines traductions, les anciens manuscrits, qui disent Qui veux-tu? Est-ce que tu veux Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? Pour bien distinguer entre les deux. Le mot Jésus, ce n'est pas un mot magique. lorsqu'on prie dans le nom de Jésus, on est en train de prier dans le nom de Dieu. On est en train de prier avec un esprit de compassion et de bonté et d'amour et de pardon et de correction parfois. Et si le contenu de notre prière ne correspond avec ce nom-là, ça veut dire qu'on n'est pas en train de prier dans le nom de Jésus. Donc je veux vraiment vous encourager, lorsque vous priez dans le nom de Jésus, vous priez ce Dieu avec tout ce que son nom représente. Ne priez, n'utilisez pas ce nom à la légère. N'utilisez pas ce nom à la légère. Ça a du sens. Ce n'est pas l'expression qui remplace le point. Alors ce matin, on ne va pas prier. Ce que je veux faire pour clôturer, je veux vous bénir. Dans le nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, ici ce matin, je vous bénis dans le nom de Jésus, afin que vous puissiez connaître la plénitude de ce nom et de ce que ça veut dire pour votre vie, afin que vous puissiez connaître le pardon, afin que vous puissiez connaître ces sentiers de justice que Dieu a préparés pour vous, afin que vous puissiez connaître notre forteresse et notre refuge. Et afin que vous puissiez être cette lumière qui doit briller devant les hommes. Peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.